Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité numéro 39 a pour titre générique Langage infantile et dureté doctrinaire sont les deux mamelles républicaines de l'endoctrinement antidémocratique des masses. Dans l'actualité économique générale et coin, je reçois, comme vous pouvez les obtenir aussi vous-même, quotidiennement, des informations rapides de l'INSEE par Internet. Les statistiques sont publiques. Chaque fois, je suis sidéré par l'infantilisme des communiqués associés à une vision rapprochée de type « né sur la vitre », de toute évidence destinée, comme celui que je vous livre ci-après, à montrer à la masse que tout va bien, même si tout s'écroule. Je cite un extrait. Information rapide de l'INSEE tombée le vendredi 24 septembre dernier par Internet. Au deuxième trimestre 2010, le PIB en volume accélère, plus 0,7%, après plus 0,2% au trimestre précédent. Le pouvoir d'achat des ménages aussi, plus 0,6% après 0,1%. Même discours sur la formation brute de capital fixe. Les importations accélèrent nettement, plus 3,9% après 2%, tandis que les exportations croissent à un rythme moins soutenu, plus 2,8% après 4,5%. Un courageux des services statistiques a osé ajouter « En conséquence, le solde commercial se dégrade et contribue négativement à la croissance du PIB, moins 0,3 points après plus 0,6 points de base. » Mais il ajoute aussitôt, pour ménager sans doute son avancement, « Cet effet est plus que compensé par les variations de stock des entreprises, principale contribution à la croissance de ce trimestre. Plus 0,6 points après moins 0,2 points. Vous trouverez dans la version papier le PIB et ses composantes en graphique. Ce graphique superpose des histogrammes barres pour les composantes et une courbe linéaire pour le PIB total. C'est une présentation machiavélique qui tente à bien montrer la crise économique, entre guillemets, de fin 2008 et le redressement opéré depuis, grâce évidemment à la pertinence supposée des mesures gouvernementales. Quant au sous-ensemble, il noie le poisson dans l'échelle des pourcentages, corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrés. Bref, ce graphique est fait, comme tous les graphiques, pour montrer des réalités, certes, mais manipulé sous le jour souhaité par le gouvernement. Bref, il est tendancieux. Il fait suite au cocorico du début, à peine matiné de pondération de sources inconnues sur des estimations hasardeuses en cours d'année et complété par l'incroyable autosatisfaction sur le déstockage massif des entreprises qui viendrait compenser la dégradation du solde des commerces extérieurs. Incroyable! Cela veut dire que les entreprises recommencent à stocker dorénavant leur production après avoir réussi à écouler le peu de stock constitué dû aux activités des mois précédents. Le tout, probablement avec des pertes financières engrangées dans les bénéfices bancaires. Il n'y a vraiment pas de quoi lancer un cocorico économique. L'activité actuelle ne trouve pas de débouchés, ou alors minimaux, inférieurs à 1%. Bref, la tentative de ragaillardir les Français par un tel communiqué fait un flop, mais il y a pire. Selon le tableau source, encore malheureusement en CBS-CJO pour la période, en trimestrialité, visé par le communiqué. On voit clairement, sur ce tableau que vous pouvez avoir donc dans la version papier, que les exportations, plus 121,56 milliards, restent en deçà de 2008, et que le gouvernement a à peine réussi à maintenir au niveau hanté. On voit aussi clairement que ce même gouvernement n'a pas eu le courage d'endiguer sévèrement le flot des importations, moins 133,63, alors qu'il laissait impayable. De même, les dépenses de consommation des ménages en hausse, attribuées au déstockage, sont en valeur, et donc a priori essentiellement dues à la hausse des prix, notamment de l'énergie sur la période. Quant au total du PIB, entièrement estimé en 2010, pas encore définitif du tout pour 2009. On voit déjà des différences. Il stagne plutôt sur la période affichée, plus 0,08%. mais il est en augmentation de 19,58% sur 2003. Dans le tableau suivant. Corrigé de l'inflation sur la même période, de l'ordre de moins 6% en valeur réelle entre donc 2008 et maintenant, il régresse d'autant, puisqu'il est stable en valeur courante. Donc je confirme que nous sommes bien au mieux en stagflation, c'est-à-dire combinaison de l'inflation galopante avec cette stagnation du PIB, et au pire, en récession évidente de moins 6% sur la période, combinée avec une inflation largement supérieure, amplifiée par les prélèvements obligatoires devenus également impayables depuis 25 ans. Le dérapage est donc total. L'équipe dirigeante doit être changée d'urgence pour des gens nouveaux, n'ayant jamais eu le pouvoir auparavant. Pourront jamais faire pire, de toute façon. Laquelle devra dire, cette nouvelle équipe, la vérité, recourir au référendum sur les choses fondamentales préalablement, informées sincèrement et complètement, et débattues, de manière à diriger le véhicule dans le bon sens du redressement réel et non plus virtuel, sans faiblesse. Autrement dit, il faut une main d'acier dans un gant de velours. À l'examen du tableau, qui lui est en milliards d'euros courants, sans correction, et c'est le seul qui constitue la vraie source de données, la légère fluctuation négative de l'ordre de moins 2% en 2009 sur 2008 ne justifie en rien l'alarmisme de la propagande déchaînée en fin 2008. Au contraire de l'affirmation de l'INSEE, d'autres récessions du PIB ont eu lieu, et bien plus graves précédemment. Il n'est que trop clair que cela fut utilisé par les banques pour élargir leur pouvoir sur le monde. À propos des banques, justement, dans l'actualité économique financière Écho 2, je vous mets le lien vers l'article de 24 heures Gold. Citons François Pérol, nouveau président de la Fédération des banques françaises, FBF, ancienne AFB et APB. Surtout, la question du risque systémique est sur la table. La traiter par une nouvelle surcharge en capital qui pèserait sur les plus grands établissements serait une grave erreur. Il parle de la taxe Tobin. On entrerait alors dans une zone déraisonnable dans laquelle les banques concernées ne pourraient plus remplir leur mission de financement de l'économie. On voit bien par cette formulation l'élévation spirituelle d'un simple objet social à but commercial et financier des années 60, et que l'on appelait alors plus modestement l'intermédiation dans les échanges, au niveau d'un offertoire. La secte noire s'auto-justifie par une mission qu'elle s'est donnée elle-même de financer l'économie dans son ensemble. La dérive keynésienne a abouti à un sacrifice sur l'autel des églises nord-sud aux croix inversées, surmontées du triangle et de son œil. Le but commercial est devenu un but de profit illimité destiné à aspirer la totalité des biens du monde entre quelques mains autoproclamées, seules capables de diriger les peuples, ces ignares. La machine bancaire, entièrement cartélisée au plan mondial, organisée comme un aspirateur, dont l'oligarchie est le moteur et les circuits financiers, comme le tube, ramènent au maître du monde, dictateur, la totalité des biens réels volés au peuple par la subtilité monétaire dépravée mise en circulation par le monde bancaire. Pas étonnant que la discrétion sur les réalités du système soit de règle et que Christine Lagarde se taise, elle qui vise Matignon. Avec cette phrase surlignée en jaune dans la version papier, les banques concernées ne pourraient plus remplir leur mission de financement de l'économie. Je crois entendre Carl 9000, le célèbre ordinateur de 2001 et l'Odyssée de l'espace, qui supplie le seul spationaute survivant de son massacre de ne pas le débrancher. Le spationaute en question a évidemment fait la sourde oreille et l'a bel et bien débranché. Personnellement, vu les immenses désastres et l'asservissement des peuples à la secte noire mondiale par le moyen des banques, je n'hésiterai pas une seconde à débrancher les banques de leur soi-disant mission pour les ramener à leur simple rôle de commerçant de monnaie indépendante de leur volonté et émise donc par les seuls États sous le contrôle des peuples par référendum, y compris d'initiatives populaires comme en Suisse. Les banques doivent retrouver leur honorabilité d'entreprise libre, dans le droit commun, jouant avec les mêmes billes que tout le monde et au profit limité à leur seul objet social. Fin de l'exploitation de l'homme par des illuminés, bel et bien fous alliés. Dans l'actualité économique monétaire, écho 3. Dans un article repris également par 24 Heures Gold, qui s'avère de plus en plus iconoclaste, dans le même but que moi-même, servir le bien public, au lien ci-dessous, nous obtenons la confirmation de ce que j'avais déjà moi-même constaté d'abord dans le domaine des valeurs mobilières, regroupées en FCP notamment dès 1984. Il faut dire que dès 1941, les Allemands occupant Paris avaient exigé la création d'une structure de captation de tous les titres à leur profit, la CCDVT, la Caisse de Compensation et de Virement de Titres. Ce que les Allemands n'ont pas finalement réussi à faire, c'est-à-dire nous prendre tous nos titres de propriété sur notre économie, nos banques nationales le réalisent pour leur propre compte, en espérant échapper à la faillite qui les menace de plus en plus sévèrement. Je vous ai déjà mis en garde contre le dépôt en banque de vos avoirs, y compris en or, car le principe d'escroc, c'est quand même le cas, suivant lequel c'est la possession qui vaut titre, sous réserve que la victime fasse la preuve qu'elle est escroquée, c'est désormais répandu. Le procédé commence à faire des vagues, dont on a ici un aperçu avec l'article dont je vous cite un large extrait. L'or des swaps de la BIS a été prélevé sur les comptes des clients des banques. C'est grave. Si l'on en croit le Financial Times, la Banque des règlements internationaux, BRI, aurait autorisé des prêts en dollars US à trois des plus importantes banques mondiales françaises, HSBC, Société Générale et BNP Paribas, en leur demandant, afin d'en tirer quelque intérêt, de sécuriser ses emprunts par des versements en or. Par ce biais, la BRI s'est rapidement vue obtenir 346 tonnes d'or. Selon le Financial Times, les banques avaient aussi besoin d'accroître leur capital en dollars US et ont donc, de bon gré, échangé leur or contre la monnaie de la BRI. Pourquoi la BRI accorderait-elle des dépôts de monnaie à des banques considérées si instables qu'elle se voit obligée de leur demander des garanties en or pour sécuriser ses emprunts? Les réserves des gouvernements américains, allemands ou français ne seraient-ils pas des garanties suffisantes aux yeux de la BRI? Le bilan annuel de la BRI nous montre qu'elle possède déjà de telles réserves. En prêtant de la monnaie à ces trois banques, la BRI espérait-elle vraiment obtenir une part des rendements que produisent ces banques grâce aux prêts effectués en Floride, à Nice ou à Madrid? Et toujours selon le Financial Times, on s'aperçoit aussi que, fait remarquable, l'or que ces trois banques ont transféré à la BRI comme garantie ne leur appartenait en fait pas du tout. En réalité, comme le suggérait avec sarcasme la dépêche du GATA parue il y a trois semaines, l'or ainsi échangé appartenaient essentiellement à leurs propres clients, et dont elles avaient seulement la garde. Pour citer le Financial Times, l'or utilisé lors de ces échanges provient principalement des dépôts d'investisseurs privés présents dans les banques commerciales européennes. Certains investisseurs préfèrent en effet placer leur or dans ce que l'on appelle des comptes alloués, réduisant ainsi la possibilité pour la banque dépositaire d'utiliser cet or dans ses opérations de marché, en assignant à ses clients des lingots spécifiques. Dans le même temps, d'autres investisseurs, maladroits, leur préfèrent les comptes non alloués, moins coûteux, mais qui donnent aux banques l'accès à leurs lingots dans leurs opérations quotidiennes. Ce passage de l'article a l'avantage d'avoir un goût de vérité et confirme entre autres les propos d'Adrian Douglas, Market Force Analysis, et de James Turk, le fondateur de Gold Money, qui nous avait mis en garde il y a peu. Si vous possédez de l'or non alloué, vous ne possédez pas vraiment d'or, mais plutôt une sorte de droit à réclamation, ténu, contre une contrepartie qui ne travaille déjà au départ pas du tout dans votre intérêt. Dans le cas de ces échanges, mis en œuvre par la BRI, cette réclamation ténue se fait contre des institutions financières que la BRI elle-même considère si peu fiables qu'elle ne leur accorde aucun crédit, à moins de recevoir en échange l'or de leurs clients comme sécurité. En acceptant ces échanges, les banques prouvent par là même leur manque de fiabilité. Et j'ajoute ici maintenant, moi-même, contre des organismes extraordinaires du droit commun, qui se sont octroyés le droit de facto de fabriquer la monnaie dont ils ont besoin pour jouer au poker menteur avec vous, en trichant, en plus, constamment, et en se permettant au besoin, comme cela est décrit ici, de considérer vos biens déposés par vous en confiance dans leur coffre, à leur garde rémunérée, comme leur appartenant, sans vergogne aucune, vous laissant, si vous n'êtes pas content, comme seule possibilité de ramer en justice durant 15 ans pour tenter de les leur faire rendre. Cela s'appelle en langage populaire, je suis désolé de le dire, de l'escroquerie. Reprenons. L'article du Financial Times ne fait aucune mention de ce qu'il est sur le point d'advenir de cet or transféré à la BRI. Mais comme vous pourrez l'observer dans le lien ci-dessous, il est fait mention des transactions d'or, de contrats à terme et d'options sur l'or constamment effectuées par la BRI, comme nous en a fait part le journaliste Edward J. Epstein dans son enquête publiée dans le magazine Harper en novembre 1983. Si étrange que cela puisse paraître, l'or placé dans ces banques et que les clients de ces banques pensent détenir en toute sécurité, c'est bien d'abus de confiance, est en fait maintenant utilisé par le système bancaire international pour empêcher la hausse du prix de l'or contre l'intérêt même de leurs clients et des investisseurs qui pensent le posséder. Abus de confiance et escroquerie. L'article du Financial Times est intitulé « This gold swap mystery is unrevealed ». Le mystère de l'or swappé reste non révélé. C'est ma traduction. Cet article a été signé de Chris Powell, Gold Antitrust Action Committee, GATA. En somme, vos lingots pourtant numérotés et pourvus de certificats officiels, comme vous savez, dont vous possédez les relevés bancaires comme vous appartenant par débit à votre compte, passent de main en main sans votre consentement et vous êtes privé de votre droit de propriété qui, en droit civil français, vous garantit pourtant abus, usus, fructus. Vous êtes même dépossédé de la nue propriété en l'absence de jugement condamnant les banques à vous les rendre. Retenez plus que jamais mon conseil de garder votre or vous-même et de ne le confier à personne. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.